lorsque 20h a sonné sur le 101.1.
On est là, bonsoir.
Votre bande FM, bonsoir, bonsoir. Un petit générique peut-être ?
Un petit générique, on va dire, complètement inédit.
Très improvisé. Bon, écoutez, ouais, inédit. Vous avez surtout oublié votre trompette.
Oui.
On vous pardonne.
Excusez-moi. J'ai été très pris par, bon bref, des réunions politiques. C'est important en ce moment de se réunir, de s'organiser. Bonsoir, DJ Jim.
Bonsoir, DJ Had.
Et bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeuristes de Radio U. Il est 20h et on est le mercredi 29 novembre. Et c'est Méta Radio qui est de retour. Une émission qui se cherche en se trouvant et qui se trouve...
parfois en se perdant.
Exactement.
Mais il faut savoir aussi se perdre pour trouver le chemin. Et après tout, est-ce que ce n'est pas la route qui compte plus que le but ?
Bah, si on ne se perdait pas, est-ce qu'on pourrait trouver ? Hein ? Grande question.
Je vous reconnais bien là, DJ Had. Donc, pas de générique aujourd'hui ?
Pas de générique. Ou en tout cas, un générique qu'en fait, l'auditoriste va créer lui-même.
Réécoute. Interactif.
Voilà.
Ouais.
Bon. On allait loin dans l'expérimentation, là, tout de suite. Maintenant, on est parti pour cette cinquième.
C'est la cinquième. On en a fait deux de rang. Voilà, Méta Radio, la radio sur la radio, dans la radio, pour la radio, par la radio.
Avec la radio.
À travers la radio. Une émission qui invente des nouvelles chroniques à chaque fois, des chroniques qui sont peu suivies, mais qui peuvent revenir aussi de manière aléatoire.
Et ce soir, les chroniques sont de retour quand même un petit peu.
Oui.
Moi, je parlerai un petit peu de la problématique que j'avais lancée à la deuxième, hein, sur la mort. Voilà, on va continuer là-dessus. Mais par quoi commence-t-on, mon cher ami ?
Bah écoutez, je vais vous raconter mon week-end. J'ai participé à l'inauguration de l'association La Marée dans les Monts d'Arrée, basée à Plounéour-Ménez. C'était un succès. Il y a eu beaucoup de monde, il y a eu énormément d'interventions. Il y a eu, par exemple, une pièce de théâtre qui a été lue. En viol mineur, et puis le soir, au Petit Bonheur à Bodmeur, il y avait la soirée concert qui a clôturé toutes les festivités. La Marée, c'est donc une association qui a une double tâche, une double mission. C'est à la fois une association d'accompagnement de femmes victimes de violences sexuelles et sexistes, d'où l'inauguration le 25 novembre, car c'était la journée
internationale
contre
les violences sexuelles et sexistes.
C'est ça. Et écoutez, on a vu qu'il y avait un besoin, il y avait une attente. Énormément de monde qui sont venus nous soutenir. Et ça c'est plutôt cette partie de l'association des VSS, c'est géré par les filles. Mais il y a aussi un deuxième volet à La Marée, c'est une bibliothèque militante. Qui est autogérée et qui s'est ouverte aussi à Plounéour-Ménez. Beaucoup de passages dans cette bibliothèque. Et on a fini ça en chanson, car tout se finit en chanson en France, comme disait Marivaux, avec Azé Musaki, une rappeuse timide, adorable. C'était pas la timide. Là, j'ai pas tout sous les yeux. Là, j'ai fait une mauvaise capture d'écran. Non, Azé Musaki, c'était du rap féministe un peu rentre-dedans, pardon. Il y avait Nadjapa, un folk primal avec des musiciens qui vous sortaient des flûtes, des instruments qui venaient du monde entier. Et une chanteuse qui chante dans un langage inventé par elle. C'est une langue un petit peu émotive, basée sur le sentiment, sur le moment présent.
Et ça fait un chouette concert.
Ouais, super concert. Et pour finir tout ça, DJ Jim International a pu faire une prestation, donc j'étais très content. Ça a dansé et j'ai passé un morceau, Bollywood, qui est un extrait d'une bande originale d'un film qui s'appelle Disco Dancer. C'est un film kitschissime qui est même chroniqué dans Nanarland.
Okay.
Ils sont même chroniqués. C'est un peu la fièvre du samedi soir, mais version Bollywood. Et il y a un morceau qui a rendu le dance floor complètement furieux. C'est Disco Dancer. On commence là-dessus. Allez. On se retrouve après.
Yeah. जवानी क्या होती है?
नहीं माँ।
जवानी एक लहर है, जवानी एक नशा है, जवानी जिस पे आए वो ही जाने ये क्या है। दो दिन की हस्ती में सदियों की मस्ती है, बिंदास भागी जवानी, दुनिया से मिलते हैं ऐसे जवानी में जैसे मिले आग पानी।
DJ Had, rejoignez votre micro. Mais je savais pas que vous dansiez comme ça.
Ouais.
Ah ouais, là, vraiment les pas disco.
Ouais, j'aime bien danser. Je trouve que c'est la danse, c'est important. Bouger son corps. Être en harmonie là, avec des vibrations, ça fait partie de l'humain depuis la nuit des temps, la danse.
Est-ce qu'il est déjà arrivé lors d'une crémation, d'un enterrement, enfin de la cérémonie avant la crémation ou l'enterrement, puisque je rappelle à nos auditeuristes que vous travaillez aux pompes funèbres,
oui,
et que vous nous apportez dans cette émission votre réflexion sur la mort. Est-ce qu'il arrive parfois qu'il y ait des morceaux comme ça, parce qu'on écoute beaucoup de musique, il y a beaucoup de morceaux avec des diaporamas. Arrive qu'il y ait des petits morceaux un petit peu dansants comme ça?
Ça arrive, ouais.
Hein?
Ah ouais, carrément. Bah, en fait, ouais, c'est les obsèques. Alors là, c'est plus dans les cérémonies civiles hein, où il va y avoir des morceaux qu'on va écouter avec diaporama, etc.
Mais c'est pas à l'église. Voilà.
C'est pas à l'église. À l'église, il y a des morceaux. Hein. Il y a des chants et de la musique. Des chants religieux.
Oui, c'est des chants religieux.
L'Ave Maria et puis des prières. Mmh. Bon, bref. Qui sont toujours les mêmes, quels que soient les obsèques. Mmh. C'est toujours les mêmes.
Des petits textes choisis par la famille.
Tu parles des cérémonies religieuses?
Ouais, ça, oui, voilà. Mais alors, revenons maintenant aux cérémonies civiles.
Cérémonies civiles, moi, en tout cas, tel que ça se passe, où je travaille et comment ils font, toutes les cérémonies civiles sont faites avec les familles, hein, avec les gens qui viennent de perdre quelqu'un. Comment ça va se dérouler, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va écouter.
Et ils ont carte blanche sur les musiques.
Bah ouais, c'est leur choix. Et du coup, ça va vachement dépendre du coup, des familles et des gens. Alors, mais c'est intéressant, mais ça va vraiment dépendre des gens. Et en fait, quand même, là, ça, moi, ça va faire 1 an et demi que je travaille dans les pompes funèbres. Et quand même, je peux faire de façon très générale. La plupart des cérémonies civiles que j'ai vues, avec des musiques, avec des diaporamas, se ressemblent beaucoup parce que les gens sont perdus. Et ils ne savent pas faire comment à ce moment-là. Ils ne savent même pas quoi dire. Ce qui m'a très, beaucoup surpris. Hein. Les gens sont sans munitions face à ce moment de deuil, de la perte d'un proche. Et qu'est-ce qu'il faut dire, comment le dire. Voilà, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a quand même des gens qui construisent leur discours. Ils vont parler avec le cœur, ils vont écrire des choses, ils vont faire un choix de musique, il n'y a pas de problème. Mais en fait, la grande majorité, et c'est vraiment surprenant, la grande majorité sont guidés parce qu'ils ne savent pas comment faire à ce moment-là.
D'accord.
Ce qui est bon.
Alors, je sais pas. Quand j'ai enterré crémationné mon cousin disparu trop tôt l'année dernière, justement la dernière chanson c'est au moment où le cercueil s'en va vers les flammes, c'était Salut à toi des Berruriers Noirs. Et il y avait un pianiste aussi, on peut prendre un pianiste, c'est le pianiste, c'est Gilda de Stamina.
C'est ce qu'on veut, hein, de toute façon.
Gilda de Stamina qui fait piano aussi. J'étais surpris de le voir. Oui, voilà. Bon, il peut y avoir plusieurs ambiances, mais les gens sont perdus. Du coup, ça fait que c'est un peu aseptisé. Tout le monde, tout le monde revient sur les mêmes.
En fait, c'est ça qui me surprend beaucoup. C'est ça qui m'a surpris. C'est un peu standardisé.
Ouais.
C'est assez étonnant, hein, parce que là, on est face à un événement très intime, la perte d'un proche, d'un membre de la famille qui avait... Bon, voilà, quoi. On se dit qu'il y a des liens affectifs forts, là, avec la personne qui vient de mourir. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand même des cérémonies standardisées, guidées, qui se ressemblent. C'est surprenant.
Oui, mais après, puisque il y a une liberté totale d'organiser la cérémonie qui pourrait ressembler le plus possible au défunt.
Après, je pense que ça nous renseigne vraiment sur notre société en fait, qui a mis loin la mort, la fin de vie, et qui ne sait plus en fait comment accompagner les gens qui sont en train de mourir, et encore moins les gens qui sont morts. On est perdu. Bref. Et j'enchaîne.
Oui.
C'est lié.
Et après, moi, je vous dirai quel morceau je veux qu'on mette le jour de mon enterrement.
Ah, yes.
Ou de ma crémation. Vous déciderez ça. Oui, alors, enchaînez. Oui.
C'est lié.
Oui.
Hein? Je vais faire juste un petit point sur Israël, Palestine, etc.
Eh oui.
C'est un sujet, comme j'avais dit, qui m'habite. Mais là, je vais juste faire un petit point là-dessus. Et si on doit en reparler, on en reparlera, on prendra le temps, on va réfléchir, etc. En fait, la dernière émission, j'ai dit une phrase à un moment... j'ai parlé avec mon cœur, etc. J'ai dit « Le peuple juif n'existe pas, c'est un mythe. » Phrase qui peut choquer et qui se voulait provocatrice et qui semble nier l'existence à la fois d'une histoire qui serait celle des Juifs et d'une histoire commune. En fait, ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. Je veux juste rappeler, en fait, moi, c'est très simple. C'est en m'appuyant sur des travaux d'historiens, de politistes, de journalistes qui, qui suivent ce qui se passe depuis 50 ans dans cette partie de la Terre, au Proche-Orient, Israël, l'Arabie Saoudite. En fait, juste un point, une petite parenthèse géographique. Israël, c'est tout petit. C'est la Bretagne, à peine la Bretagne. C'est un coin minuscule de la Terre, au bout de la Méditerranée, là. Quand on parle de Gaza, la bande de Gaza, c'est vraiment une bande complètement au sud-ouest d'Israël, qui fait 10 km de large, 10-15 km de large, sur 30 km. C'est que dalle. Mmh. De Brest à Penmorlay, on a fait le tour de Gaza. Voilà, c'est juste sur le plan géographique, ce conflit depuis un siècle, il concerne un tout petit coin de la Terre. C'est assez fou la place que ça prend. Mais c'est assez compréhensible parce qu'on est dans un coin de la Terre qui est le berceau des trois monothéismes. Judaïsme, christianisme et islam. Ils sont tous nés là-bas. Et qu'on le veuille ou non, qu'on soit athée, comme moi, pur et dur, radical, qu'on soit tout ce qu'on veut, en fait, l'histoire de l'humanité est liée à ces trois monothéismes. Voilà, c'est comme ça. Ça nous traverse, ça nous inspire pour le meilleur et surtout pour le pire. Et en fait, juste moi, mon propos, là, c'était un truc très simple. En fait, le XXe siècle, c'est un moment terrible. Il y a un génocide des Juifs par l'Allemagne nazie qui a catégorisé une partie des humains comme appartenant à une race juive qu'il fallait éliminer parce qu'ils allaient corrompre le sang, la civilisation, etc. Antisémitisme radical du Troisième Reich hitlérien, qui a une histoire. L'antisémitisme, il n'est pas avec Hitler et avec le régime nazi. Hein. L'antisémitisme est une idéologie européenne, déjà. Hein. Ça se passe en Europe. C'est né en Europe. Ça ne concerne pas les bouddhistes au Tibet, ou etc. L'antisémitisme, c'est un problème européen. Il est créé par les empires européens au XIXe siècle. Il y a une plus longue histoire de l'anti-judaïsme, qui est autre chose, hein, avec les chrétiens qui vont dire ils ont assassiné Jésus-Christ, blablabla. Bref, l'histoire, elle est énorme, super passionnante, mais énorme. Juste, moi, ce que je voulais dire, c'est en fait, actuellement, la société israélienne, Israël, le pays israélien, l'État israélien qui vit là aujourd'hui, qui existe aujourd'hui, est un État nationaliste, fasciste, ou en grande voie de fascisme, avec des ministres d'extrême droite. Le Premier ministre Netanyahou est un nationaliste pur et dur, sioniste, extrémiste. Voilà, quand je dis le peuple juif est un mythe, Comme ça, demande des explications. Ce que je voulais dire, c'est que la vision d'un peuple juif éternel, vivant depuis la nuit des temps, depuis on ne sait pas combien de temps, qui serait voué à vivre de tout temps sur cette terre-là, terre sainte, etc., est un mythe. C'est un mythe, c'est une idéologie sioniste que reprennent aujourd'hui l'extrême droite qui est au pouvoir en Israël. Et en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Depuis l'existence de cet État-là, c'est l'oppression, c'est la colonisation, c'est la ségrégation raciale. Et il faut bien entendre les mots. Hein. Les victimes du génocide nazi qui a eu lieu au XXe siècle, mènent une politique fasciste. C'est dingue, complètement dingue. Voilà.
Et ce qui explique le grand retournement auquel on assiste, c'est que ces antisémites européens, ces partis-là, maintenant deviennent judéophiles au nom de l'islamophobie. parce que leur haine de l'islam dépasse et veulent faire de ce conflit un conflit de civilisation.
Exactement.
Où Israël serait la partie avancée de l'Europe, de l'Occident, des valeurs judéo-chrétiennes.
Tu as très bien résumé. Et en fait, là, pour ceux qui nous écoutent, et je voudrais tiens, encore un truc. Les gens qui nous écoutent, si on dit de la merde, bah vas-y, appelez Radio U, appelez-nous, faites vos remarques, etc. On peut dire de la merde, parfois on n'est pas sûr, parfois on n'a pas bien travaillé, donc allez-y.
Tiens, j'ai le numéro 02 98 03 82 61.
Voilà, donc n'hésitez pas. Mais en fait, tu as tout dit. Et ce qu'on est en train de dire, on ne l'invente pas. En fait, il y a des historiens, des journalistes sérieux qui ont travaillé la question. Et on va finir par ça. On va réécouter un petit extrait d'interview qu'on avait déjà passé de Sylvain Sipel, journaliste historien, qui a écrit un livre « L'État d'Israël contre les Juifs » et qui explique c'est qui au pouvoir aujourd'hui là ? Et vous allez voir que Netanyahou et son parti le Likoud et ses alliés qui sont fascistes, hein, parti sioniste religieux, sont des fascistes.
Ils cherchent leur feuille de route dans l'Ancien Testament.
Ouais, avec une vision hyper raciste, hein, mais on l'avait déjà entendu, hein, on avait déjà entendu. Les Arabes, ils en veulent pas. C'est aussi simple que ça. On va réécouter des extraits. C'est ces gens-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Voilà.
Il n'y aura pas de paix tant qu'ils seront au pouvoir. Premier extrait.
Vous rappelez que finalement, la droite extrême ou l'extrême droite, le Likoud et ses nombreuses dérives et qu'incarne le personnage Netanyahou, et finalement au pouvoir, à gouverner Israël 39 années
43.
De ces 43 dernières années.
Absolument.
39 ans sur 43. Ça veut dire que ça a remodelé la vision qu'a la société israélienne d'elle-même. Ça a remodelé toutes ses relations, justement,
je vais vous donner
sur les
un
questions
exemple.
De la paix. De...
Lorsque, en 1967, Israël s'empare de Jérusalem, le général qui est le grand rabbin de l'armée israélienne, qui est un mystique, demande immédiatement que l'on détruise l'esplanade des mosquées et donc la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Moshe Dayan, qui à l'époque est ministre de la Défense, dit non mais... Il a cette phrase extraordinaire, il dit mais qui a besoin d'un Vatican juif ? Parce qu'évidemment, le rabbin dit on va élever le troisième temple, on va reconstruire le temple. Il dit mais qu'est-ce que c'est que cette folie ? Et l'immense majorité de la population israélienne juive considère que le type est complètement dingo. On ne va pas se coltiner en plus un conflit religieux. Il y a déjà un conflit national, ça va comme ça. Aujourd'hui, les gens qui prônent la reconstruction du temple, de manière déclarée et parfois de manière sous-jacente, ils ont des ministres. Ils participent au gouvernement. Ils ont des ministres. Ils avaient un vice-président de la Knesset. Ce sont des gens honorables et honorés. C'est ça, le parcours d'Israël.
Voilà. Aujourd'hui, à la Knesset, donc le Parlement israélien, aujourd'hui, dans le gouvernement de Netanyahou, il faut entendre ce que vient de dire Sylvain Sipel, spécialiste de là-bas. Il y a des fascistes, des nationalistes purs et durs, sionistes, extrémistes. Qui sont ? Je vais rajouter quelques informations. Il y a Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale. C'est pas rien, hein ? Sécurité nationale. C'est le leader du parti sioniste religieux, Ben Gvir. Aujourd'hui, hein, et depuis l'élection de Netanyahou, donc ça fait déjà plus d'un an, voilà, ce type-là avait dans son salon, vous pouvez aller écouter sur YouTube, il y a un spécialiste, Charles Alderlin, un grand journaliste spécialiste de ces questions-là. Vous tapez Charles Alderlin, vous allez tomber sur ses travaux, c'est voilà, incontournable pour aussi comprendre. Ben Gvir, le ministre de la Sécurité nationale aujourd'hui d'Israël, est un néo-fasciste, un fasciste, un nazi, tout ce que vous voulez, raciste, anti-musulman, comme vous voulez. Il avait dans son salon le portrait de l'assassin qui a fait un massacre il y a quelques années d'Arabes en plein Jérusalem. Baron Goldstein, c'était ça. C'était ça le nom du type qui a assassiné. Il avait son portrait dans son. Il avait le portrait de cet assassin dans le salon. Je veux dire, on est face à des fascistes. Hein. Il est aujourd'hui ministre de la Sécurité nationale. Un autre ministre, c'est Bezalel Smotrich, du même parti, ministre des Finances. Il y en a d'autres. Et il y a le président de la Knesset. Voilà. C'est voilà par qui est gouverné aujourd'hui Israël. Au nom. Bon, voilà. Au nom d'une longue histoire, ces gens-là sont en train de créer un régime d'apartheid. Donc, bon, ne nous trompons pas, en fait, d'ennemis. C'est tout. Alors, il faut essayer de comprendre, c'est juste de comprendre ce qui se passe, point final.
Alors, justement, comme dans les médias, on a vu beaucoup de Français de confession juive soutenir bec et ongle la politique extrémiste de Netanyahou et cette vengeance aveugle. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de juifs qui sont aussi pour la paix et qui militent pour la paix. Alors, on les a vus à New York. Et en France, il y a l'UJFP. Je vous invite à aller consulter leur site, l'Union juive française pour la paix. Bon, on ne les entend pas dans les médias, ceux-là. Et pourtant, ils ont des messages de paix et de et pour vivre en communauté, pour faire vivre ce projet-là de deux États qui cohabitent. Donc, c'est l'UJFP. Un deuxième extrait, une petite chanson. Qu'est-ce que vous voulez, Didier?
Non, mais on va finir sur cette question-là pour aujourd'hui. Peut-être une petite chanson. En fait, juste, on reviendra. On a tout le temps pour creuser cette question du conflit israélo-palestinien, comprendre ce qui se passe dans ce coin de la terre, comprendre c'est quoi qui se passe aussi en Europe, en France, aux États-Unis, c'est quoi les conséquences, les répercussions qu'il y a. Moi, je me dis, là, c'est le temps de faire une petite pause sur ce sujet, laisser décanter, réfléchir, faire des lectures, inviter des gens, et on verra plus tard.
Oui, on a des projets d'invités qui connaissent le sujet sur le bout des bois. Des doigts, pas des bois. Ça, c'est les serres. Qu'est-ce que vous nous avez mis, Oumoum ?
Oum Kalsoum, une chanson d'Oum Kalsoum, une grande chanteuse égyptienne du XXe siècle, des années 60, 70. Une idole en Égypte et dans tout ce coin-là. Chanteuse.
À tel point qu'on la nomme l'Astre d'Orient.
الله يزيد قلبك الله يزيد قلب قالينا خنات وينولك ما تشتي ولا ينتي حسنك وينولك ما تشتي ولا ينتي حسنك وعلى الإحسان ويكون نصيبك في الغرام فوق المرام دايما دايما بلا حرمان والأمر لك والنهي لك واللي ملك الاتنين يعيش سلطان كل المحبين في غنى الحب ما لي نصيب نصيب جرح ان الهوى مالوش دوا يبرى عليه ويطيب قلبي لعيني اشتكى
Quelle voix, quelle voix, quel bijou, quelle étoile, l'astre d'Orient.
Ouais, il faut découvrir cette dame, cette grande chanteuse. Bon, l'enregistrement a fait perdre un peu de la qualité, mais bon, c'est énorme.
C'est l'époque. Sans transition, je relance la chronique, j'exige l'exégèse. Vous pouvez me faire un petit générique pour... J'exige l'exégèse. Alors, on va passer à un morceau hardcore. Au fait, j'en profite pour dire aux auditeuristes que la semaine prochaine, je serai là sur ce même créneau en solo pour une émission musicale. Ça va être Punk to Zouk. Voilà. J'ai deux amours dans la vie, le punk, le hardcore et les musiques africaines. Et voilà, donc ça dépend des humeurs, on ne sait pas trop sur quoi on tombera. Est-ce qu'il y aura des enchaînements comme ça complètement improbables de Kassav à Warzone, par exemple. Parce que justement, je vais vous faire écouter un petit morceau de Warzone. Alors j'exige l'exégèse, c'est un morceau qui est analysé sous mon expertise.
Et l'exégèse.
Et voilà, d'où l'exégèse. Donc Warzone, c'est un groupe de hardcore new-yorkais qui a sévi dans les années 90, qui en fait, Rebiz, le chanteur, c'est un skinhead hardcore de l'équipe d'Agnostic Front. D'ailleurs, au début, il était rodiste d'Agnostic Front. Et quand il a fait son groupe Warzone, il a donné un petit peu un souffle au hardcore qui en revenant sur l'old school. Attention, j'exige l'exégèse. Le morceau qu'on écoute, c'est Free At Last. Et c'est dédicacé à un ami que j'ai rencontré et qui a des problèmes d'addiction. Free At Last, ça veut dire enfin libre, enfin débarrassé des addictions. Est-ce que vous avez écouté cette... Ah ouais, mais alors là, attends, écoute. En fait, je vais aller sur... Parce que là, le cartwheel, il m'embête. Vous savez ce que c'est, le cartwheel? Est-ce que vous pouvez expliquer? C'est un petit... des dominos, des carrés qui sont sur l'ordinateur et qui sur lesquels on met nos morceaux et en fait on peut rien faire avec. Alors je sais pas pourquoi Radio U travaille avec ça. Je peux vous dire qu'ils vont m'entendre à la prochaine réunion.
Nous sommes dans un petit moment d'infraradio sur Méta Radio.
C'est parti. Écoutez cette basse. Donc là, on a une basse typiquement hardcore. Est-ce que vous sentez la détermination dans cette basse? Oui.
Elle est déterminée, ouais. Déterminée. Je suis pas là, frère.
Oh là là, mais je suis complètement perdu aujourd'hui là dans mes potards. Voilà, j'ai essayé. Voilà ce qu'il dit. Parce que les problèmes d'addiction, souvent, c'est très décourageant parce qu'on essaye de décrocher, on retombe, on essaye de décrocher. Ce qui m'a dit mon ami aujourd'hui. Voilà. Donc cette chanson, j'ai essayé il y a quelques années, mais cette fois-ci, je vais vraiment y arriver. J'entends les gens dire dans mon dos que j'y arriverai pas, mais je les laisse tout seuls avec leur alcool et leur poudre. Vous entendez ça? Oh, tout à fait hardcore, street punk, le sing-along, on appelle ça le sing-along, c'est à ce moment-là où tout le public monte sur scène, ça c'est très hardcore. Je ne veux pas vivre mort, je ne veux pas perdre cette bataille. Enfin libre! PCP, de tout. Et si j'échoue, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te moquer de moi? Oh. Ah, j'ai la voix cassée, je peux pas chanter avec lui. Je vais gagner cette bataille, c'est sûr, et dans mon cœur, je resterai pur. Enfin libre. C'est une chanson autobiographique. Là, c'est ce qu'on appelle, dans le hardcore, la moche part. Le hardcore, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le hardcore du djihad?
Moi, j'y connais pas grand-chose. Hein. Moi, je fais
le hardcore, ouais, vous faites de la trompette, de manière humble, mais bientôt, je pense que vous allez nous étonner très bientôt, surtout si vous n'oubliez plus votre trompette comme vous avez fait aujourd'hui. C'est quand même mieux de l'avoir pour nous faire des démonstrations. En fait, le hardcore, c'est un sous-genre, c'est un mélange de métal et de punk. Et donc, on a souvent des refrains très, très rapides comme ça. Et après, une cassure au milieu qui ralentit. C'est la moche part où il faut danser et faire du sing-along avec le chanteur qui donne ici son programme. Donc, c'est une chanson que j'invite tous ceux qui essayent de décrocher de quelques drogues que ce soit à écouter tous les matins comme un programme à suivre. Voilà, persévérance au fond de moi, et puis à la fin, il a gagné, il dit « maintenant, je suis sauvé ». Il est mort, peu de temps après avoir chanté cette chanson, l'avoir reprise sur l'album The Sound of Revolution, il est mort d'une pneumonie. Je sais pas si ça a rapport, mais en tout cas, c'est vraiment la bande originale des gens qui essayent de décrocher Warzone, Free at Last. Et j'imaginerais bien, tu sais, cette chanson reprise un petit peu à la cool, guitare folk.
Avec des BPM beaucoup plus tranquilles.
Plus tranquille. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, vous savez, enfin, on s'est engagé sur beaucoup de chroniques. Je me disais que, donc, nous, notre duo, c'est le professeur et...
Le croque-mort.
Est-ce qu'on se ferait pas une émission spéciale collègue où vous inviteriez un de vos collègues des pompes funèbres et moi un de mes collègues du collège?
Je pense que c'est une très bonne idée. Oui, faisons-le.
Mais
l'émission n'est pas finie.
Ah, c'est vrai, mais je pensais à ça maintenant. D'ailleurs, on en est où dans l'émission?
Moi, je vais faire une petite chronique de la mort.
Chronique de la mort. La mort, personne ne veut en entendre parler. La mort est un tabou dans notre société. Mais tous les mercredis, non, un mercredi sur deux, dans Meta Radio, DJ Ad est là pour nous mettre en face de la grande dame. Chronique de la mort.
Miloud, 34 ans, ouvrier fondeur. Je suis mort. Emporté par un cancer fulgurant, diagnostiqué seulement 15 jours auparavant. Je venais d'avoir 34 ans. Le cancer, c'est à mon travail que je le dois, celui d'ouvrier fondeur. Quand j'ai commencé dans cette grosse boîte spécialisée dans la fabrication de moteurs pour l'aéronautique, je ne savais pas que j'en mourrais. J'ai été recruté en fonderie dans le secteur de la fusion. Les postes les plus pénibles sont confiés aux nouveaux, aux plus précaires. C'est un peu comme un bizutage. C'est par là que passe ensuite l'intégration dans l'entreprise. J'avais 21 ans, j'étais intérimaire. Il s'agissait de découper des barres de métal d'environ 5 à 15 cm de diamètre en lopin, prêts à être fondus. La découpe se faisait à la scie mécanique, à lame. Il n'y avait ni carter de protection, ni aspiration. Alors les poussières métalliques, vous pensez bien que j'en ai mangé. Du cobalt, du nickel, du zinc, du chrome, tout un cocktail. Un autre poste consistait à découper au cutter des bandes dans des rouleaux de fibres céramiques, le matériau qui a remplacé l'amiante pour emballer les moules. Des fibres en suspension, il en avait partout. On les voyait bien dans les rayons du soleil, elles volaient tout autour de nous. Ça nous démangeait dans le cou, sur le visage, les avant-bras, sur toutes les parties non couvertes de notre corps. Elles parvenaient même à pénétrer nos vêtements, malgré notre combinaison de travail en papier. Là encore, il n'y avait pas d'aspiration et notre masque P2 était sans efficacité. C'était encore pire au déballage après le passage au four. Les fibres céramiques partaient en poussière que nous devions ensuite balayer et donc mettre à nouveau en suspension, l'aspirateur étant le plus souvent hors d'usage. Et puis une fois par semaine en général, et parfois plus, je devais nettoyer les fours, m'introduire dans ces espaces exigus et retirer la calamine au grattoir, frotter les parois avec une sorcière à poils métalliques. Je ne vous parle pas de l'odeur, forte comme du soufre. Malgré notre combinaison intégrale, on en sortait noir, comme des mineurs de charbon. Il fallait se frotter dur sous la douche pour retrouver sa couleur. On se mouchait noir aussi. Mais au-delà des poussières, c'était la manutention que je trouvais particulièrement éprouvante. Les barres de métal pesaient au moins 50 kilos chacune, et ce n'était pas la seule chose que j'avais à transporter dans la journée. Une fois embauché comme salarié de l'entreprise, je n'ai jamais cessé de porter, de tracter, de pousser ou de poser des charges lourdes. Selon des collègues, pas moins d'une tonne de métal pesait sur nos vêtements. Chaque jour. Au poste de décochage, il fallait casser les carapaces des moules à la main et au marteau, et nos articulations en prenaient un coup sévère. On appelait ça Cayenne ou encore Germinal, tellement c'était dur.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence.
C'est René Binamé, La vie s'écoule. Je vous le dis comme ça pour les podcasts, vous aurez l'info, Didi Had.
Merci.
Alors, donc ça c'était, vous nous avez lu le témoignage de Mouloud, hein, c'est ça ?
Mouloud.
Ouais.
On appelait ça Cayenne, Germinal. Ça se passe pas du temps de Zola, ça se passait en 2021, sous Macron. C'était un extrait du bouquin Le Nouveau Monde. Tableau de la France néolibérale, qui est sorti en 2021. Du coup, c'était un témoignage repris par les auteurs de ce bouquin, de Mouloud, ouvrier fondeur. C'était pour illustrer, pour reparler du sujet que j'ai abordé les premières émissions et qui va faire l'objet de plusieurs émissions, la mort prématurée. La mort qui tombe... pour certaines catégories, beaucoup plus tôt que la soi-disant espérance de vie.
À cause du travail.
À cause du travail, pas seulement. Là, c'était un témoignage. Clairement, les conditions de travail ont provoqué sa mort. Mais ce n'est pas que le travail. C'est le fonctionnement en général de notre société. Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on respire ? Dans quel endroit on vit ? Il y a des morts prématurées, il y a des gens qui meurent, c'est pas la fatalité biologique, parce que les conditions sociales, politiques, économiques font que c'est des vies, comme dit Didier Fassin, sont des vies qui comptent moins que d'autres, tout simplement. Des vies raccourcies. Je vais finir par un autre extrait du même bouquin, et là c'est Frédéric Pierru qu'on va entendre, qui est un sociologue spécialiste de la santé. Voilà ce qu'il dit dans le chapitre « Se soigner ». Considérons un seul indicateur, celui de la mortalité prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans. Puisque je rappelle, l'espérance de vie actuellement, elle est autour de 82 ans pour les hommes et 86-87 pour les femmes. Donc avant 65 ans, c'est considéré statistiquement, sociologiquement, comme une mortalité prématurée, qui arrive beaucoup trop tôt, c'est pas normal. Je reprends. Considérons un seul indicateur, celui de la mortalité prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans. Celui-ci dessine une zone de surmortalité en forme de croissant dans la partie nord du pays, de la Bretagne à la Lorraine, très marquée dans le nord. À l'inverse, la sous-mortalité est affirmée en Île-de-France, dans l'ensemble oriental et méridional du pays. La carte de la mortalité prématurée est grosso modo celle des régions frappées par la désindustrialisation et partant celle des régions et départements les plus pauvres. Les départements d'outre-mer connaissant quant à eux une situation contrastée. L'espérance de vie est supérieure à la moyenne nationale en Martinique, mais inférieure à la Réunion, en Guadeloupe et en Guyane. De même, à 35 ans, un ouvrier a une espérance de vie inférieure de 7 ans à celle d'un cadre, de 3 ans pour les femmes. De façon préoccupante, ces écarts ont tendance à se creuser. Il en va de même de l'espérance de vie en bonne santé. L'écart entre catégories extrêmes est alors de 10 ans. Les inégalités sociales concernent toutes les grandes pathologies, notamment le cancer. On sait que ces inégalités sociales commencent dès l'enfance et se renforcent avec l'âge. L'allongement de la vie a donc été fort inégal et l'on ne saurait se satisfaire de moyenne. On soulignera enfin que l'augmentation de l'espérance de vie ralentit globalement depuis 10 ans. Et que l'espérance de vie en bonne santé, quant à elle, stagne. C'était pour dire ce que j'avais dit au départ quand j'ai présenté mes chroniques. La façon dont les gens vivent puis meurent, les causes pour lesquelles ils meurent, les conditions de vie qui font qu'ils vont mourir de telle manière, de telle maladie, à tel âge, ne sont pas une fatalité biologique, ne sont pas inexplicables. S'expliquent tout simplement par la façon dont le capitalisme patriarcal existe. Là, j'ai mis l'accent sur les conditions de travail, sur, d'un point de vue économique, on va dire. Mais regardez, par exemple, si on prend l'exemple, si on va du côté des problèmes de genre, il y a un phénomène qu'on appelle les féminicides.
Eh oui.
Et là, ça fait des vies raccourcies, ça fait des vies prématurées.
Je vais être obligé de raccourcir à mon tour votre intervention car il est 20h59, Méta Radio touche à sa fin. On va laisser l'antenne à l'émission sur les jeux vidéo, sur les musiques des jeux vidéo. Est-ce qu'un dernier mot ?
Un dernier mot.
Ou le générique ?
Le générique. Vive la poésie. À bas la guerre.
Et à mercredi prochain pour mon émission. Mercredi dans 15 jours, c'est Méta Radio. On se retrouve tous les deux. Et la semaine prochaine, c'est une émission musicale en ma compagnie. Ben, j'étais ravi de faire cette émission. C'était la quatrième ou la cinquième ? La cinquième, déjà. Il est 21h. À la semaine prochaine.